Bonsoir, c'est l'heure de votre magazine Tribune de Presse. Au menu, de journalistes vont débattre sur le contexte et contenu de la déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda signée à Washington le 25 avril 2025. Aussi, nous parlerons du CICR, le comité international de la Croix-Rouge qui accompagne les déplacements des militaires congolais FARDC de Goma à Kinshasa, 3 mois après l'entrée des rebelles du M23 à Goma. Au micro, Freddy Ignace Bikumbi, Paul Badia Nyama et à la technique, nous sommes avec Eric Izami, journaliste ici à Kinshasa. Bonsoir.
Bonsoir Freddy Bikumbi.
En ligne depuis Bunia, dans la province de l'Ituri, Rachid Koudra, bonsoir. Vous êtes journaliste de la radio de l'université de Bunia, Ituri.cd et correspondant du média Afrique Info.cd, également membre du collectif des journalistes engagés sur les enjeux sociaux politiques. Et Jacques Furaisha, bonsoir.
Bonsoir Freddy Bikumbi, bonsoir à tous les co-débatteurs, Eric et Rachidi.
Bienvenue à vous tous. Tribune de presse, c'est aussi les commentaires, l'analyse des journalistes sur l'actualité dans leur milieu de vie. À vous la parole pour nous parler du fait social qui arrive à attirer votre attention aujourd'hui ou sur toute la semaine. Nous commençons ici à Kinshasa avec vous, Eric Izami.
Merci de la parole, cher Freddy Bikumbi. Alors, j'ai commencé par dire d'abord mon regret par rapport à une réalité qui nous agace ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tous nous avions appris cet adage vieux comme le monde qui dit qu'après la pluie vient le bon temps. En réalité, à ça, on ne doit plus parler ainsi parce que chaque fois lorsqu'il pleut, c'est les grincements des dents à la place du bon temps. On compte mort d'homme et puis on déplore beaucoup les dégâts matériels. Alors que ça devrait quand même interpeller tout le monde, tous les membres de la communauté, pour que nous puissions gérer notre cadre de vie, notre environnement, afin que nous puissions pas pleurer à chaque fois qu'arrive la pluie. Parce que la pluie est essentielle, elle nous permet d'avoir notre légume, elle nous permet de vivre aussi dans une forme de fraîcheur. Voilà tout mon regret, c'est comme ça que je voulais interpeller la communauté, pour que chacun de nous fasse son boulot comme il se doit, pour que nous ayons des routes acceptables, la voirie acceptable, les normes urbanistiques respectées, pour que nous sachions circuler, etc. Avant-hier, j'ai mis 4 heures de temps, de 24 novembre, pour déboucher sur Willery, devant le palais du peuple. Comment peut-on mettre 4 heures pour ça? Une petite distance, non, ça me contrebalance. C'est comme ça que je dis tout mon regret ici.
Merci Eric, je sais que la pluie fait des dégâts à Kinshasa. Kinshasa n'est plus propre et ça fait aussi des embouteillages, des inondations. Nous allons du côté de Kalemie. Avec vous, Jacques Furaisha, vous êtes journaliste et directeur de la radio communautaire Ndenga News à Kalemie. Quelle est l'actualité que vous commentez?
Oui, Freddy Bikumbi, ce qui est vrai, l'actualité qui a marqué là, mon attention cette semaine, toute la semaine, il y en a trois. D'abord, c'est l'insécurité sur l'axe Kalemie Kabimba. Comme vous le savez, Kabimba, il y a une de pollution du ciment. Alors, il y a un véhicule de Chinois qui quittait Kabimba pour Kalemie, avec 6 militaires et un civil chinois. Ce véhicule a été attaqué par des inconnus, des hommes en armes. Ils ont tué sur place 5 militaires FARDC, ce qui fait très mal. Et un autre est décédé à l'hôpital, ce qui veut dire 6 militaires qu'on a perdu sur la route de Kalemie Kabimba. Une autre situation, une autre actualité qui a dominé le mois, d'ailleurs le mois d'avril à Kalemie, ce sont des cas d'injustice ou de justice populaire. 6 cas d'injustice populaire enregistrés dans la ville de Kalemie. suite à une situation, je peux dire, une situation d'insécurité observée dans plusieurs quartiers, donc une situation de banditisme urbain observée dans plusieurs quartiers de la ville, mais aussi cette situation qui est devenue régulière à Calais, c'est le cas des inondations. Le cas des inondations dans certains quartiers, notamment comme Kolobondo, quartier industriel, quartier d'Ave, et même le boulevard qui mène vers l'aéroport de Calais, aujourd'hui en voie de disparition. Nous alertons les autorités à tous les niveaux d'intervenir face à cette situation. Freddy Bikoumbi, voilà une petite information qui a attiré mon attention cette semaine.
Merci à vous, Jacques Fouraïja. Rachid Koudra, du côté de l'Ituri Bounia, Nyanyaro, quelle est l'actualité que vous commentez?
Voilà, je commence avec l'arrivée hier jeudi du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Boyaka-Chama, qui est rentré dans la province, à qui je souhaite déjà bonne arrivée. Mais on doit noter que cette rentrée coïncide également avec plusieurs contestations de certains leaders d'opinion ituriens sur sa gestion, dont certains insistent toujours sur la levée de l'état de siège qui a trop duré. Mais il y a également d'autres qui parlent même de son remplacement. Et je parle non pas de leaders d'opinion, c'est l'Assemblée provinciale, il y a la société civile, il y a certains acteurs politiques aussi qui ne partagent pas les mêmes avis avec les gouvernants de l'état de siège. À titre personnel, je voudrais recommander au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Boyaka Chama, je crois qu'il va nous suivre dans cette émission Tribune de Presse, et renforcer sa collaboration avec toutes les couches de la population ituriennes. Il ne doit pas prendre un cas comme ennemi et autre comme ami. Son retour doit être un signe de la cohésion sociale pour permettre le retour total de la paix en Ituri. Vous savez que l'Ituri a trop souffert avec les atrocités des groupes armés par-ci par-là. Alors le gouverneur doit organiser une table ronde entre lui et l'Assemblée provinciale et la société civile, ainsi que d'autres leaders communautaires pour harmoniser d'abord sa collaboration avec ces institutions. Parce que, je te le dis, il n'y a pas une bonne collaboration entre le gouverneur de l'Ituri et l'Assemblée provinciale, et je peux dire aussi la société civile, et y compris certains acteurs politiques et leaders communautaires. Oui, il y a également les menaces des groupes armés. Les menaces sont permanentes en Ituri. Vous savez que l'Ituri est une province où les groupes armés sont à caractère communautaire. Il y a chaque groupe armé a tendance à s'attribuer un groupe armé quelconque, ça, ce n'est pas un secret. Et donc, les journalistes sont exposés aussi à des menaces. Donc, par exemple, s'il y a une information qui est en faveur des groupes armés Y, vous allez voir les membres d'une communauté Y réagir, s'attaquer aux journalistes, menacer, vous serez menacé même des morts, tout ça, tout ça. Donc, c'est un peu ça, la situation que les journalistes traversent dans les souris. Et autres aussi, il n'existe pas une bonne collaboration entre certains journalistes avec les autorités militaires. De leur traitement d'information avec indépendance. Chacun veut que les journalistes soient à sa faveur, soient à son côté. Donc, c'est un peu ça. C'est difficile qu'on puisse traiter vraiment une information avec indépendance, comme le code d'éthique et de technologie nous dit qu'il faut être net. Lorsque vous traitez une information pour les cas du pouvoir, et là, les gens, de l'autre côté, les gens sont contre vous. Lorsque vous traitez une information, les gens qui sont contre les pouvoirs, ou soit qui ne partagent pas les mêmes avis avec les autorités en place, vous allez voir, vous allez subir les menaces, les intimidations des autorités en place. Donc, c'est un peu ça. Voilà, en quelques mots, ce que je pouvais dire à la vague informationnelle.
Merci à vous tous. Abordons le premier sujet de ces débats, la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signée à Washington le 25 avril 2025. C'était en présence de Marco Rubio, secrétaire d'État, membre de l'administration Trump. Aujourd'hui, vendredi 2 mai, est le jour J de cette semaine où ces deux pays doivent proposer un plan de sortie de cette crise sécuritaire de l'Est de la RDC. Le département d'État américain soutient que l'objectif de cette déclaration signée est de permettre aux deux pays de profiter des ressources naturelles de la RDC grâce à des partenariats économiques et des investissements mutuellement bénéfiques. Pourquoi les États-Unis d'Amérique s'invitent dans la situation créée par le Rwanda à l'Est de la RDC? Comment est-ce que vous, journaliste, vous avez accueilli cette déclaration des principes? Je commence avec vous, Jacques Fouraïcha.
Merci beaucoup, Freddy Dikombi. Merci à tous les auditeurs de la Radio Capi qui nous suivent à travers le monde. Merci également à cette population de l'Est, des très chers auditeurs de la Radio Capi. Ce qui est vrai, Freddy, on a tous suivi avec intérêt la signature de la déclaration des principes pour un accord visant à promouvoir la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs, tout en mettant fin au conflit qui ravage aujourd'hui l'Est de la République démocratique du Congo, notre cher pays, le pays que nous aimons bien. La souveraineté nationale, pour moi, ne doit pas se négocier jusqu'à ce niveau. Même un enfant de 5 ans, connaît bien que tous les agresseurs, tous les mauvais pour ce pays, notre pays, la RDC, passent par le Rwanda. Et aujourd'hui, je rappelle qu'il y a quelques semaines, à Doha, il y a eu signature d'un communiqué commun, donc un communiqué conjoint entre la RDC et les rebelles de la FC M23. Et aujourd'hui, c'est la RDC et le Rwanda qui signent la déclaration des principes. Mais écoutez, avec tous ces accords, on signe la déclaration des principes aujourd'hui ou demain. Donc, demain après demain, ce sont des accords qu'on va signer. Et après ces accords, s'il n'y a pas un bon suivi de ces accords, c'est cette population congolaise qui doit encore subir des non ou du non-respect de ces accords. Moi, je pense que avant de signer cette déclaration sous les guides, bien sûr, de Washington, parce que tout le monde sait que l'ennemi, l'agresseur de la RDC passe par le Rwanda, soutenu par le Rwanda, l'Amérique, Washington, devrait d'abord exiger au Rwanda les retraits de ces militaires qui sont dans notre pays.
Peut-être ils vont être retirés parce qu'il y a maintenant le plan de l'accord qui doit être présenté ce vendredi.
Freddy, si vous vous renseignez à Goma aujourd'hui, si vous vous renseignez à Bukavu, si vous vous renseignez à Kamanyola, on va vous dire que du jour au jour, les militaires rwandais entrent dans notre pays. Pendant qu'il y a déjà cet accord qui a été signé, cette déclaration qui a été signée le 25, est-ce que vous pensez, même si aujourd'hui on signait les accords, ils vont quitter le pays? Moi, je ne crois pas.
Mais pourquoi vous avez ces doutes? Et pourtant, on connaît que les militaires rwandais sont en RDC. Ils ne se cachent plus. Ils ont signé la déclaration des principes qui montre qu'ils sont en RDC. Ils vont être retirés.
C'est pas pour la première fois, Freddy, qu'il y a eu des signatures pour la paix dans notre pays, mais à fin de compte, rien ne marche, rien ne change. Bien sûr que je vais appuyer le président de la République. J'ai suivi, il a salué les démarches ou la signature de cette déclaration. C'est déjà un départ pour une paix durable, mais en premier lieu, selon moi, serait d'abord que les militaires rwandais qui sont dans notre pays quittent d'abord notre pays. En plus de cela, les accords qui seront signés aujourd'hui le 2 mai, qui vont bénéficier des accords? Le peuple rwandais ne bénéficiera rien, ce sont des accords à impact purement économique. Donc, c'est une déclaration motivée par qui a une motivation économique pour les intérêts d'un groupe. N'oublie pas, il y a quelques semaines, il y a eu des négociations entre la RDC et Washington pour un éventuel accord pour les minéraux stratégiques de la RDC. Donc, l'accord qui sera signé demain ou après-demain, nous, Congolais, on ne doit rien espérer à cet accord. Parce que demain après demain, on va encore subir de ce même accord. C'est pas le premier accord qu'on a signé.
Merci Jacques.
C'est pas le premier communiqué conjoint qu'on a signé dans ce pays. Mais à la fin, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous bénéficions? À part les souffrances. Frédéric, je vais terminer par dire que aujourd'hui, si vous arrivez à l'est du pays, si vous appelez même quelqu'un qui est à l'est du pays, il a même difficulté à retirer l'argent. Imaginez. Il a même difficulté à retirer l'argent. La souveraineté d'une nation ne se négocie pas. Ne se négocie pas. Voilà un peu ce que je voulais dire, Freddy.
Merci, Jacques Fouraïcha. Je vais vers Rachid Koudra. Comment est-ce que vous trouvez le contenu de cette déclaration de principe? L'administration Trump n'a pas invité d'autres pays limitrophes de la RDC, seul le Rwanda. Quelle est l'idée derrière? Est-ce seulement économique ou c'est peut-être la balkanisation du pays comme au Soudan?
D'abord, je commence par la RDC et le Rwanda ont signé un accord de principe. Et comme vous venez de le dire, dans ce document, on trouve comme principe le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale, gouvernance et cadre d'intégration économique régionale. Voilà, ce sont les principes. Je ne peux pas quand même dire tout. Mais je reviens d'abord sur l'intégration économique. Voilà, c'est ça les grands principes, parmi les grands principes que nous devons quand même en parler dans cette émission. Vous devez comprendre que en analysant les contenus de ce principe, vous allez comprendre que l'intérêt du Rwanda et des États-Unis, c'est d'exploiter les minéraux critiques de la RDC. Pourquoi je le dis? D'abord, je dénonce la position du Rwanda face à la guerre d'agression rwandaise. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda n'a jamais reconnu la présence de ses troupes sur les sols congolais, malgré des affirmations portées par plusieurs organisations, notamment les conseils de sécurité de l'ONU. Et il y a les groupes d'experts de l'ONU qui ont déjà démontré clairement que le Rwanda intervient directement du côté AFC-M23. Mais jusqu'aujourd'hui, le Rwanda n'a jamais confirmé sa présence du côté rebelle M23. Et autre souci majeur, c'est quoi? Les M23 aussi n'ont jamais dit un jour qu'ils bénéficient du soutien militaire du Rwanda. Est-ce que dans ce sens-là, on peut se poser au moins la question? Est-ce qu'on ne peut pas arriver un jour à dire que le Rwanda, si par exemple, les conflits entre M23 et le gouvernement congolais, cela ne nous engage pas? D'autant plus que c'est un conflit interne qui consiste entre les deux pays, donc également comme on l'appelle, je vais utiliser le terme, on l'appelle opposition armée, et j'utilise le terme qui est appuyé. Ils peuvent dire ça, moi c'est une crainte pour moi. Et autre crainte c'est quoi? Les M23, ils ont fait une déclaration conjointe à Doha, c'est une situation d'hostilité et consort. On se demande, la solution sera trouvée où? Parce qu'avant, si on nous parlait de Nairobi, on nous parlait de Luanda, On parle aujourd'hui de Doha, quelques jours après on entend encore parler de Washington. On se demande, est-ce que l'accord réellement consiste réellement à donner la paix? C'est ça la question que je me pose. Bon, moi je ne pense pas qu'il peut y avoir balkanisation, mais je peux dire que c'est des mascarades, c'est de la poudre rosée, cet accord. D'autant plus que le Rwanda n'a jamais reconnu sa présence sur les sols congolais, malgré des confirmations qui est apporté, que je l'ai souligné ici. Et on doit se demander, est-ce que les revendications du AFC-M23 et du Rwanda, est-ce qu'elles sont proportionnelles? Voilà la question qu'on doit se poser, M. Freddy. Dans ce sens-là, je pense que nous risquons de faire, et nous risquons de tourner autour d'un point sans solution. Moi, je me demande si pourquoi le gouvernement a les kilos de prendre en considération les parts sociales organisées par les CCCO. Vous savez que le problème qui est en RDC, c'est un problème qui est plus interne. Si vous analysez bien, si vous regardez bien, le problème est plus interne et les étrangers profitent parce que nous sommes divisés. Je crois que le gouvernement ne doit pas chercher à aller à côté pour, je ne sais pas, justifier la diplomatie ou quoi que ce soit, mais vous devez voir les côtés internes. On ne peut pas négliger les côtés internes pour aller tenter de chercher une solution à l'extérieur. Je l'ai toujours dit dans plusieurs de mes interventions que la solution c'est la crise à l'est de la RDC ne reviendra pas de l'étranger. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, on a dit, on soupçonnait Joseph Kabila d'être en connivence avec les M23. D'un côté, on cherche aussi à négocier avec les M23. Est-ce que nous comprenons vraiment ce que nous faisons? C'est ça la question qu'on doit se demander. pourquoi seulement on doit faire tout ça maintenant? Pourquoi on doit mener des poursuites judiciaires contre certaines personnalités au moment où le pays est divisé, le pays est agressé? Est-ce que le moment est tellement bien choisi? C'est ce que je pourrais dire en un mot, que l'accord entre la RDC et le Rwanda, signé à Washington, je crois que cela ne donnera aucune solution pour la guerre de l'Est. Je ne suis pas un prophète de malheur pour la RDC, mais je préviens que bientôt ici, vous allez voir les gens vont commencer à dire non, cela ne nous concerne pas, non, cela engage seulement les deux pays, non, cela engage seulement ceci, cela. Donc, ça donne beaucoup de questions, ça donne beaucoup de réflexions. On doit vraiment réfléchir de manière objective et nos autorités ne doivent pas faire des encore. Elles ne doivent pas se laisser emporter par des personnes de mauvaise volonté. Parce qu'aujourd'hui, je sais que peut-être le président Félix Tshisekedi a la volonté de gagner la paix à l'Est, mais quels sont ses collaborateurs? Ils engagent des poursuites judiciaires au moment où on veut raconter la cohésion nationale dans les pays. Et si avec ça, on aura la paix réellement, je crois que c'est faux et archi-faux. Le gouvernement doit donner confiance au parc social de l'ECCTECO, qui est un parc que tout le monde appuie. Parce que nous avons vu comment la SECO et l'ECC a consulté tout le monde. On doit quitter des distractions par-ci, par-là, on nous appelle pour signer. Ce sont les intérêts. Entre les États, il n'y a que les intérêts. Les gens là sont dans leurs intérêts.
Alors, tournons vers vous, Eric Izami. Vous êtes journaliste congolais et vous avez suivi les autres disent que non, la souveraineté ne se discute pas, l'intégrité de notre pays ne doit pas se discuter. Voilà, il y a eu cette déclaration de principe. Aujourd'hui, on doit avoir ces plans d'accord entre le Rwanda et la RDC. Quelle est votre lecture?
Il faut noter d'abord qu'il y a eu mort d'hommes et de millions. On parle de plus ou moins 10 millions de morts depuis que ça a duré. Et ça dure depuis 3 décennies. C'est trop. À un moment donné, il faut que l'on s'arrête pour quand même faire parler du langage social, qui est le langage qui permet aux humains de se parler, de trouver un terrain d'entente, plutôt que de parler toujours un langage belliqueux, des armes qui parlent, qui ravissent des vies des gens. Alors, par rapport à cette déclaration de principe, qui nous amènera certainement à une déclaration d'un accord ou un accord à signer entre deux États, l'État belliqueux que nous adresse le Rwanda, et nous qui avons été jusqu'ici victimes de notre bonne volonté. Parce qu'en réalité, en 1994, lorsqu'il y a eu malheur au Rwanda, ce que nous condamnons, déplorons aussi, avec les génocides là du 10 avril 1994, c'est les autres pays membres de l'ONU qui avaient intimé l'ordre à la RDC d'ouvrir le couloir pour accueillir le frère qui avait des problèmes chez lui, le Rwanda. Et puis cette action de bonne foi, de bonne volonté, de charité, malheur est arrivé dans notre maison et on ne vit plus bien. Alors, si cet accord va nous conduire à la paix, gage essentiel pour penser au progrès un jour, je salue de deux mains, mais je nous demande à être prudents. Être prudent parce que souvent nous, République démocratique du Congo, nous avons toujours été victimes de notre bonne volonté. Mais c'est pour là que je veux que nous puissions, par exemple, aller jusqu'à la déclaration de principe, jusqu'à la signature des accords pour de paix, un peu à la manière de la France et l'Allemagne, à l'époque où Hitler avait pris l'Alsace et la Lorraine, ravir tout ça. Mais aujourd'hui, ce sont les deux qui ont fondé ce qui est devenu plus tard l'Europe des 12, l'Europe des 27 et aujourd'hui l'Union européenne.
Vous n'avez pas peur qu'il y ait balkanisation de cette partie est de la RDC?
Si, c'est comme ça que je nous appelle à la prudence. Je ne voudrais pas que nous puissions aller là-bas pour vendre notre pays ou nos terres, non. Nous y allons au nom de la paix, pour que nous puissions quand même vivre en paix et permettre à nos enfants qui d'aller à l'école, qui d'aller au champ, créer notre pain et puis penser à notre progrès. Parce qu'on ne peut quand même pas passer toute une vie comme ça pour ne faire que des tueries en Syrie. Dites-moi, cher Freddy, combien des Congolais de la République démocratique du Congo ont envie de leurs visus, de leurs yeux, les coltans, les cassiterites, les diamants, etc. C'est pas tous les Congolais qui voient ça. Pourquoi est-ce que tous nous devons tout le temps pleurer pour ça? Je préfère, parce que je note qu'il y a une jurisprudence positive. À une époque, il y a eu aussi des seigneurs de guerre qui sémaient la mort dans la province de l'Ouélé. Le Ouélé qui comprend plusieurs territoires, Dungu, Rungu, Wamba, Faradje, Ouattara, et puis avec ici Rwamatari comme chef-lieu. À l'époque, on tuait des gens avec le Roger Lumbala et compagnie. Mais depuis l'arrivée d'un projet à Ouattara, dans Doko Durba, ce projet-là est arrivé, et il s'est implanté en 2009. Petit à petit, elle a quand même évolué, l'entreprise en question qui est devenue Kibali Gold Mines, qui est devenue aujourd'hui une mine de classe mondiale, qui autour de cette mine-là a fait créer 400 autres petites entreprises qui a occupé l'entreprise là, Kibali Gold Mines, a fait occuper à nos jeunes gens qui vivent dans cette partie du pays, dans des travaux à gauche et à droite, ils ont créé leur business, ils savent plus se tourner vers l'industrie de la mort pour prendre les armes et s'entretuer. On a remarqué qu'il y a la paix. Je ne dis pas que c'est le paradis là-bas dans le Haut-Ouélé, mais depuis l'arrivée du projet Kibali Gold Mines avec Marco Brissot, que je salue en passant par rapport à ce projet intégrateur, on voit quand même qu'il y a une lueur d'espoir. On avait réussi malheureusement à tuer tous les rhinocéros blancs dans le parc de la Garamba. Mais avec l'activisme du Marc Brissot, docteur Marc Brissot, le promoteur de Kibali Gold Mines, on a vu la réintroduction du rhinocéros acheté en Afrique du Sud, aujourd'hui dans le parc de la Garamba. Un peu comme pour diversifier l'économie chez nous. Partant de ce qui s'est passé dans le Haut-Ouélé, je voudrais que les Américains viennent signer avec nous la République démocratique du Congo les accords pour que nous puissions nous aussi tirer le pingle du jeu, que l'on crée des infrastructures qu'il faut pour l'énergie électrique, pour l'eau, pour la route, pour l'école, pour l'hôpital, le pont, etc. Et que l'on puisse arrêter de tuer nos femmes, nos filles, nos sœurs, nos mamans, parce que c'en est trop. Pour un pays sérieux qui a vécu un génocide, je parle du Rwanda, on ne peut pas vouloir vivre ça ou faire vivre ça à un pays voisin qui s'est montré clément. Je parle ici de la République démocratique du Congo. Donc moi, j'appelais de demain cette déclaration de principe et je plaide à ce que nous puissions aller jusqu'à l'accord, la signature des accords, pour qu'il y ait la paix. Et avec la paix, nous allons créer notre pain, par le chien par exemple, et puis avec la nourriture qu'on aura mangée à satiété, on pourra penser au progrès et vivre en frère. Les acteurs, pas seulement la RDC, et surtout le Rwanda, devra comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il a beaucoup trop tué au Congo, maintenant nous devons penser à la paix.
Et je vais vous demander, commençant par vous, Eric Izami, à quelques secondes, comme vous souhaitez qu'on aille jusqu'à cet accord de paix entre le Rwanda et la RDC, aujourd'hui, vendredi, demain, voudriez-vous voir dans cet accord, par exemple, reprendre encore l'opération de mixage, de brassage, parce
non.
que...
Non. Je ne voudrais pas voir revenir à ce système-là de mixage, malaxage, brassage, tout ce que vous pouvez imaginer.
Pourquoi?
Quand
Pourquoi?
Je parle de la prudence pour la République démocratique du Congo, j'invite à nos autorités RD congolaises à pouvoir marteler, insister, concrétiser ce projet qui voudrait, depuis Sun City, que l'on puisse recréer une armée réellement nationale, professionnelle, dissuasive et réellement une armée qui existerait pour préserver nos terres. Ici, il s'agit de l'implantation de bases militaires partout où nous avons des voisins. Des Banana au Congo central, Libenge, Zongo, Sud-Ubangi, Faradje, Ouélé, Ijwi, Sud-Kivu, Sakanya, Okatanga, et puis à l'intérieur, Lomé, Latumbe, Kole, Lusambo, Lubefu, je ne sais pas quoi. Je voudrais qu'il y ait des bases militaires de la République démocratique du Congo pour que nous puissions vivre en paix. Finalement, parce que vous savez, la diplomatie sans une armée forte, c'est comme si vous jouez une musique en a cappella. Il faut que la musique puisse faire intervenir les instruments.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Et un peu de mots, Rachid Koudra, que voudrez-vous que ça puisse figurer dans cet accord de paix entre le Rwanda et la RDC, par exemple?
Vous savez que à l'RDC, ce n'est pas une armée capable de vaincre l'ennemi qui nous masque, mais c'est le problème de la cohésion nationale. Je l'ai souligné même. Vous savez, si on mettait les leaders politiques ensemble, on mettait Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Martin Kapolo, Martin Fayulu, vous les prenez tous, vous les mettez ensemble et qu'on parle tous de la RDC. Combien d'anciens c'est un Congolais, certains victimes anciens Congolais, et les autres, vous les prenez, vous les mettez dans une table et vous parlez le même langage. Je crois qu'il y aura tout ce que nous avons vécu, c'est une humiliation. Et l'ennemi a profité grâce à notre division que l'ennemi a profité. Ce n'est pas Dieu que nous manquons une armée capable. L'armée est là. Les juifs disent que non, il faut doter l'armée. Ce sont des discours. La même armée a vécu le M23 en 2012. Mais pourquoi toujours on doit dire seulement que non, l'armée, on doit équiper. On a équipé l'armée, on a fait un grand budget pour l'armée. Mais c'est le problème de la cohésion nationale. Tant qu'on n'arrive pas à situer les vrais problèmes, je crois que nous risquons de tourner autour d'un pot et nous ne trouverons pas de solution capable pour la crise à l'est de la RDC. Et par rapport au contenu de l'accord, et bien qu'on parle aussi du retour des déplacés internes, des réfugiés et tout ça, et vous savez que les Rwandais ont toujours discuté que non, les FDLR sont à l'RDC. Le fait qu'ils nous agressent, c'est aussi par un papier. Les FDLR constituent aussi une menace pour son pays. Moi, je crois que l'hypocrisie doit sortir entre les deux pays. On sait que l'accord est entre les deux pays, mais je ne pense pas que cet accord a encore beaucoup de lacunes. Si ça sera signé, moi, je suis parmi les gens qui pensent que l'accord a beaucoup de lacunes, d'autant plus que ça n'explique pas toutes les parties en conflit. S'il n'y a pas de toutes les parties en conflit, il y a les hommes politiques, il y a les groupes rebelles ACM23, qui occupent déjà des grandes villes, notamment Goma et Bukavu. Les contenus de l'accord, ça se passe sur les minéraux. Tout ce que nous lisons dans ces contenus, nous voyons que ça se passe sur les minéraux. Et les deux pays sont là, c'est pour leur propre intérêt. Ils ne sont pas là pour attirer la paix. Si on pense que c'est pour attirer la paix, ça sera une paix de coups tirés. Ça sera une solution à court terme. On doit peut-être dire que non, les Rwandais, c'était de soutenir les M23. Et si les Rwandais arrêtent de soutenir les M23, on doit garder encore des problèmes. La guerre à l'Est, il y a tellement de M23. Nous avons plusieurs groupes armés. Nous avons appris que les Ouazalènes se sont battus avec les FARDC à Ouvira. Ça constitue aussi un problème. Nous avons à l'Ituri, ce n'est pas les groupes armés Codeco, FPIC.
Esaïe.
Tout ça sont des problèmes.
Merci.
Ce n'est pas Maïndombe, le phénomène Mokondo. Tout ça sont des problèmes. Je crois qu'un simple accord sur les minéraux ne pourrait pas résoudre tous ces problèmes. Les vrais problèmes, c'est la cohésion nationale. Le gouvernement doit soutenir des bases sociales dictées par les évêques de l'ESSS Info. On doit sortir des distractions. Et si on veut renforcer la cohésion nationale sur des yeux, parce que nous savons, les hommes politiques sont toujours là. Il y a d'autres qui bloquent même les ressources de la paix. Nous sommes dans une période où, moi, je pense que l'accord entre la RDC et les Rwandais, peut-être, c'est les relations diplomatiques, c'est pas mauvais, mais dire que cet accord pourrait résoudre la question sécuritaire à l'est de la RDC, en tout cas, je ne partage pas cet avis. Et ceux qui disent que non, l'accord entre la RDC et les Rwandais, parce que l'accord n'est pas encore signé, c'est la déclaration des principes. Je crois que l'accord sera signé incessamment, si je m'abuse, ça sera aujourd'hui, je crois. Alors, la déclaration des principes, et on a impliqué les États-Unis, tout ça. Moi, je pense que je peux dire que c'est une façon de distraire la population, parce que nous ne trouvons pas ce que la population pourrait gagner dans cet accord. Donc, nous, on parle des minéraux. Les Rwandais n'ont jamais reconnu sa présence sur les sols congolais. Et quand on dit que non, les retours des déplacés, les retours de la paix, ben je crois qu'on est encore dans l'hypocrisie. S'il faut signer l'accord avec les Rwandais, il faut dire d'abord aux Rwandais de reconnaître qu'il y a ces militaires qui sont du côté M23. Et après, c'est là qu'on peut attendre maintenant à des accords. Donc, les Rwandais reconnaissent que non, les militaires, les soldats rwandais sont sur les sols congolais en appui au M23. Je crois que là, on va sortir des yeux de l'hypocrisie. Et s'il y a réellement les FDLR du côté Goma, je ne sais pas, du côté congolais, nous devons être aussi clairs. Nous devons le dire. Parce que dans la diplomatie, il faut éviter l'hypocrisie. Il ne faut pas chercher à faire une chose et en faisant son contraire au même moment. Si nous voulons la paix, mettons toutes les batteries en marche pour que la paix revienne à l'Est. La population de Goma, la population du Nord qui a autant souffert par rapport à cette guerre. Aujourd'hui, nous parlons ici, nous sommes à Bounia. À Bounia, à Ituri, on attaque par-ci, par-là. À Goma, on attaque, il y a des tracassés, ceci, cela. Voilà, ce sont des problèmes que la population traverse et je vois que les autorités de Kinshasa doivent trouver une solution.
Merci. Jacques Furaisha, en un mot, que peut être le contenu de cet accord entre la RDC et le Rwanda?
Merci également, Eric, pour son analyse. Ce qui est vrai, cette déclaration
de principe facilité par Washington, à mon avis, marque déjà une nouvelle étape dans les efforts diplomatiques pour apaiser les tensions entre les deux pays, entre la RDC et le Rwanda. Mais dans les contenus, ce qui est vrai quand vous analysez les contenus, ce sont des aspects purement économiques. Les contenus dans des accords qui seront peut-être signés aujourd'hui, nous voudrions à ce que le Rwanda confirme officiellement et définitivement qu'il ne soutiendra plus les rebelles qui ont toujours passé par ces pays pour venir agresser la RDC. Nous ne voulons pas des accords qui vont nous amener à une paix de quelques mois, de 2 ans, 3 ans, ça suffit, mais pour une paix durable. Comme l'a dit
Rachid,
la paix en RDC ne viendra pas de l'étranger, mais elle viendra de la RDC. La cohésion nationale, mettre ensemble toutes les grandes personnalités de ce pays, réfléchissons ensemble et les solutions viendront de ce pays sans passer aux accords, sans passer aux négociations, etc. Donc, c'est que nous voulons que ces accords soient bénéfiques pour nous, et le Congo, et les Rwandais, premièrement, qu'il n'y ait pas au mixage, pas question de... J'ai même suivi Eric dire, oui, nous ne voulons pas de mixage dans notre armée. Oh, tel veut devenir tel, venir tel, mais pour quelle fin, pour quel intérêt? L'intérêt pour le moment du peuple congolais, c'est la paix durable. On n'a pas souffert, on n'a pas subi des agressions, des tensions, etc. Là, l'intérêt et l'importance pour nous et l'essentiel pour nous, c'est une paix durable pour un Congo fort et émergent.
Chers confrères, allons maintenant du côté Nord Kivu avec notre deuxième sujet de cette tribune de presse. Début mercredi de l'opération d'évacuation de Goma vers Kinshasa de militaires policiers congolais et de membres de leur famille. Ces personnes totalement désarmées étaient sous la protection depuis plus de 3 mois de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, à Goma, après la prise de cette ville par le M23. L'annonce a été faite à l'occasion d'un point de presse animé à Goma par Myriam Favier, chef de sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Nord Kivu. Je vous invite ici à suivre Ronelli Tibonera qui nous dit des détails.
L'opération qui s'étendra sur plusieurs jours est menée à la demande conjointe du ministère congolais de la Défense, de la MONUSCO et de l'Alliance Fleuve Congo, précise les CICR. L'Organisation internationale humanitaire affirme qu'elle ne fixe pas les termes de la négociation, mais offre ses bons offices comme facilitateur neutre pour la mise en œuvre de l'opération. D'autre part, les CICR a veillé à ce que toutes les personnes donnent leur consentement avant le départ de Goma et appellent l'ensemble de parties au respect du droit international humanitaire durant toute la durée de l'opération. De l'accord conclu avec les CICR, les acteurs concernés se sont engagés à assurer la sécurité des personnes faisant partie des convois et à œuvrer pour la réussite de l'opération. Une fois arrivées à Kinshasa, ces personnes seront remises aux autorités de la RDC pour leur prise en charge, indique les CICR. Dans un communiqué publié ce même mercredi, le chef de la délégation du CICR en RDC, François Moréon, rappelle que ses rôles d'intermédiaire neutre peuvent contribuer à résoudre de problèmes humanitaires complexes en réduisant les conséquences pour les populations.
Merci pour ces explications, Ronelli Tibonera. Alors, que comprendre du rôle du CICR, Comité international de la Croix-Rouge, dans ces conflits armés imposés aux Congolais par le Rwanda, où des militaires congolais FARDC ont été désarmés sur leur propre sol et trouvent la vie sauve grâce à la MONUSCO, et c'est le CICR qui les délocalise au respect, je le souligne, du droit international humanitaire pour Kinshasa. Qu'en dites-vous de l'action du CICR? Je commence par vous, Rachid Koudra.
En tout cas, c'est une action salière des comités internationaux des Croix Rouges, surtout dans cette principe de valeur, surtout dans cette principe de vérité des droits internationaux humanitaires. Il a effectué un bon travail. Vous savez que ces militaires-là étaient bloqués à Goma, personne n'est passé à leur sort. Et si les CIC arrivent à leur faire sortir dans la base de la MONUSCO, c'est quelque chose à encourager. Mais il faut aussi remercier la MONUSCO pour avoir protégé tous ces militaires-là, durant, je ne sais pas, environ 3 à 4 mois comme ça, ils étaient logés dans cette base. Et ils étaient même pris en charge par la MONUSCO, il faut le dire. Alors, c'est quelque chose à encourager. Mais on doit aussi se demander la question. Donc, ces militaires partent. La ville de Goma est restée maintenant sous contrôle total de la rébellion AFC-M23. Est-ce que le gouvernement aura encore des morceaux faciles de reprendre le contrôle de cette ville? C'est ça la question qu'on se demande. C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que le gouvernement pourrait reprendre facilement le contrôle de la ville de Goma? Il y a également Bukavu. D'ailleurs, Bukavu, encore, c'est plus pire. Bukavu, il n'y a même pas la présence de la MONUSCO. Quand même, à Goma, on peut espérer qu'il y a la MONUSCO. Ils peuvent être là pour documenter les cas de violation des droits de l'homme. Mais à Bukavu, c'est compliqué. C'est compliqué.
Alors, Eric Izami, comment est-ce que vous trouvez cette action du CICR?
Oh, l'action du CICR est salvatrice, d'autant plus que elle permet aux militaires et policiers, surtout à leurs dépendants qui ne sont pas eux au front, mais ils sont dépendants de ces soldats-là qui ont décidé de servir le pays sous le drapeau et puis de nous procurer la quiétude à l'intérieur pour la police. Donc je salue cet effet du Comité international de la Croix-Rouge de le ramener ici dans une zone où il y a la paix pour pouvoir vivre bien. Mais en même temps, je note qu'il s'agit de nous-mêmes d'abord. D'abord ici de pouvoir prioriser ce qui nous mettrait tous à l'aise. J'insiste, recréer une armée nationale, professionnelle, dissuasive, équipée, capable de pouvoir nous contenir et nous sécuriser. Parce que nous sommes, nous, réunions en République du Congo, une belle femme, toujours combattée. Tout le tableau de Mendeleïev, nous l'avons ici dans notre sous-sol. Les grandes puissances, là, que je sache, ça sera aussi une forme de guerre non déclaré comme ça pour effusion des sang. Mais les grandes nations, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, les autres là, ce sont les grandes puissances qui ont besoin de nos minerais. Alors si nous savons bien jouer, avec des accords intelligemment négociés, quand je dis intelligemment négociés, il ne faut pas seulement amener des gens qui sont au pouvoir actuellement, c'est-à-dire rien que les proches du chef d'État, non, il faut y amener des hommes congolais ou des femmes congolaises qui connaissent la question, qui connaissent très bien les rois et qui vont savoir comment il faut pour les RDC de préserver ses intérêts. N'y amener pas seulement des politiques, parce que généralement ils n'ont que des agendas cachés et non profitables à la population. Non, on veut des gens qui vont aller négocier, non pas pour l'instant actuel, mais plutôt pour les années à venir, pour la postérité. De notre Union nationale nous promettait notre postérité que nous allons faire des bonnes choses pour pouvoir. Il y a un pays plus beau qu'avant.
Jacques Fouraïcha, comment est-ce que vous aussi vous trouvez cette action du CICR?
En fait, le CICR a fait son travail comme organisation humanitaire et venir en aide à la République démocratique du Congo, notre pays, c'est on est habitué à ça. On tend toujours les mains vers les humanitaires pour nous aider. Je voulais aussi commencer par là. Le CICR a évacué les militaires, mais quid de ces personnes malades qui étaient dans des hôpitaux, dans les différents hôpitaux de la ville de Goma, où la destination aujourd'hui est inconnue. Mais la question qu'on se pose tous, mais je suis vu Rachid, s'il vous plaît, soyons sérieux. Quand on va évacuer le militaire vers Kinshasa, Cela veut dire que nous laissons la ville de Goma aux rebelles. Nous laissons la ville aussi de Bukavu à la rébellion. Merci. Si on arrive même à évacuer ces militaires, moi je pense qu'il y a un plan. Il y a à boire et à manger. Parce que le CICR ne doit pas le faire sans le consentement du gouvernement congolais. Bien sûr qu'on ne savait pas comment vivaient nos compatriotes, nos militaires qui étaient protégés, qui étaient sécurisés par la MONUSCO pendant 3 mois. Mais quand on va les transférer à Kinshasa et laisser la ville aux rebelles, donc il y a un agenda caché. Il y a ce qui se cache derrière ça.
Et les secteurs...
Voilà, moi, j'ai toujours dit que Kinshasa, il y a une vérité qui est cachée derrière cette évacuation de nos militaires vers Kinshasa. On ne doit pas laisser la ville de Goma, la ville propre de la RDC, à une rébellion jusqu'à évacuer nos militaires qui étaient restés dans la ville et laisser la ville dans le vide. Donc, on va vivre nos constructions sur place. Il n'y a pas la justice. Donc, c'est une administration des rebelles qui est là, qui fonctionne. Il faut aller vivre, il faut aller à Goma voir comment nos compatriotes subissent la réalité de cette administration. Voilà un peu Fredo. Je voulais dire que il y a ce qui se cache derrière cette évacuation et le gouvernement de Kinshasa, le régime de Kinshasa devrait nous dire réellement ce qui se cache derrière la situation de l'Est. S'il y a des accords qui ont été signés avant cette situation, Kinshasa devrait nous dire la réalité. Non, il y a ceci, peuple congolais.
Merci à vous tous, c'est tout pour la tribune de presse de ce vendredi sur Radio Kapi. Merci à vous, Eric Izami, journaliste basé ici à Kinshasa. À vous également, Rachid Koudra, journaliste de la radio de l'Université de Bounia. Ituri.cd et correspondant du média Afrique-info.cd, également membre du collectif de journalistes engagés sur les enjeux sociopolitiques depuis Bounia dans la province de l'Ituri, sans oublier Jacques Furaisha, journaliste et directeur de la radio communautaire Ndenga News à Kalemi. Merci à toute l'équipe de production de la tribune de presse Guy Maté qui l'écoutait sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la technique, Paul Badia Nyama et Hervé Voka Simba. À la présentation, Freddy Ignace Bikumbi. Au plaisir de vous retrouver vendredi prochain.